Bonjour, ici Rose Grezla et bienvenue à Priorité locale. Aujourd'hui, je suis avec Sœur Marie-Pierre et elle va nous parler du programme humanitaire Solidarité Jeunesse. Bonjour Sœur Marie-Pierre.
Bonjour Rose.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Alors, votre programme Solidarité Jeunesse donne l'opportunité à des jeunes adultes de participer à des expériences d'aide humanitaire en République dominicaine. Et vous venez justement de revenir d'un de ces voyages. Expliquez-nous un peu votre expérience.
Oui, donc nous partons avec, disons, des groupes entre 15 et 18 personnes. Il y en a deux chaque année. Donc moi, j'en accompagne un des deux qui part durant pratiquement tout le mois de mai. Alors, je viens tout juste d'en revenir. Nous allons là-bas, nous construisons trois petites maisons pour des familles. Disons que depuis la fondation de l'organisme, on a construit différents types d'édifices. Il y a eu des écoles, des cliniques, des centres communautaires, des petites maisons. Dans les dernières années, ça a été surtout des petites maisons. Donc, on se met au service d'une coopérative dominicaine qui s'appelle l'Association pour le développement de San José de Ocoa. Et cette coopérative, disons, promeut le développement intégral, disons, tant au niveau de l'infrastructure, de l'éducation, du leadership communautaire, d'environ une centaine de petites communautés rurales autour de la ville de San José de Ocoa. Et ce sont eux qui identifient les besoins de pair avec les membres des différentes communautés. Nous, on se met simplement au service de cette coopérative. Alors, ils nous disent, OK, ici, il y aurait besoin de maison, ici, il y aurait besoin de latrine, ici, il y aurait besoin d'un aqueduc. Et puis, on choisit un projet parmi ceux qui nous sont proposés. Et donc, on se met au service de cette coopérative qui nous accueille, qui nous héberge. Et puis, voilà, on met les jeunes à main d'œuvre, à pied d'œuvre pour travailler à la construction de ces maisons. Vers la fin du projet, quand les maisons sont terminées, on part de cette région-là. On va quelques jours à Santo Domingo pour se sensibiliser aussi à la pauvreté urbaine. Et puis, on va aussi sur les plantations de canne à sucre dans une autre région qui s'appelle El Ceibo pour se conscientiser à la réalité des migrants haïtiens qui viennent en très grand nombre pour la coupe de la canne. Alors ça, c'est quelques jours simplement pour se conscientiser, mais ça nous permet de le voir de nos deux yeux puis de mettre les deux pieds dans les champs de canne à sucre. C'est beaucoup plus efficace que juste le lire dans un livre.
Oui, définitivement. Donc, vous avez plus qu'une chose à faire quand vous allez en République dominicaine.
Oui, c'est ça. Ça ne fait pas évidemment le tour de toutes les conditions de vie des Dominicains. On ne visite pas du tout le nord du pays, on ne visite pas la frontière avec Haïti. Il y a beaucoup de réalités qu'on ne connaît pas vraiment. Mais on essaie quand même de donner un aperçu qui soit juste de la réalité de certaines personnes de ce pays. Donc, on voit les enjeux ruraux. Donc, dans un environnement rural, il y a beaucoup de différentes formes d'état de vie. Il y en a qui ont une terre, qui la cultivent eux-mêmes, peuvent avoir un peu de profit de la culture de leur terre. Parfois, il y en a qui ont des grandes terres avec des serres, qui ont plus de moyens. Il y en a qui n'ont aucune terre, qui se mettent au service d'autres propriétaires et qui vivent d'un salaire journalier au jour le jour, ne sachant pas si demain il y aura du travail. Donc, il y a des situations précaires. Il y a aussi des Haïtiens qui vivent dans des régions rurales qui, eux, n'ont pas de papier, donc vivent non seulement de manière précaire, mais aussi dans la peur d'être déportés si jamais la police d'immigration vient. Donc, il y a toutes ces réalités-là dans le milieu rural. On essaie de se conscientiser, de voir ces différentes réalités, comment ils jouent les uns avec les autres. Donc, tout un écosystème social et économique. Et puis aussi, à la capitale, c'est complètement différent. Il y a des gens très, très riches, il y a des gens très pauvres. La pauvreté urbaine se vit de manière très différente de la pauvreté rurale, avec la gestion des déchets qui est très compliquée, l'évacuation d'eau, etc., etc. Donc, on essaie de donner un portrait qui soit pas seulement unilatéral de la réalité de la République dominicaine.
Maintenant, quel est le rôle typique des jeunes adultes qui participent à ce voyage humanitaire?
Bon, le grand rôle, c'est de participer aux activités comme telles avec les gens, donc de mettre la main à la pâte lors de la construction des maisons, par exemple. Donc, il y a toujours, évidemment, un menuisier professionnel dominicain qui s'occupe de voir à ce que la maison se construise comme il faut, parce que il y a personne d'entre nous qui sait comment construire une maison dans les pays du Sud. Donc, il nous dit, tu mélanges ce ciment-là, tu mets l'eau ici, tu ramasses du sable, tu mets ce morceau de bois-là, tu creuses un trou ici. Donc, il explique chacune des étapes petit à petit. Et puis, les jeunes travaillent de pair avec les résidents dominicains du village où nous sommes insérés. Tout le monde y travaille. Et puis ensuite, ben, il y a aussi plein d'enfants qui sont toujours très curieux et contents qu'on s'occupe d'eux un peu. Alors, il y a toujours un jeune qui prend une demi-journée de temps en temps pour aller à l'école, par exemple à l'école du village, qui est une école où il y a peut-être 12 élèves de la première à la sixième année. Donc, la professeure doit se promener d'une année à l'autre, parfois faire l'enseignement particulier à un qui est en telle année. Donc, ça aide aussi. Et puis, des activités avec les enfants le soir, s'impliquer avec la communauté. C'est surtout ce genre de travail-là. Sur les champs de canne à sucre, on n'y reste pas très longtemps, mais on essaie quand même d'aller sur les champs et d'aider les travailleurs haïtiens à charger la canne qui est déjà coupée, la charger sur les chariots pour qu'elle soit pesée à la pesée de la compagnie. Donc, ça, c'est le genre de travail qu'on peut faire. Souvent, on a l'impression qu'on fait pas grand-chose, mais ça fait quand même une différence.
Oui, définitivement. Maintenant, quel est le processus d'inscription pour participer au programme humanitaire et est-ce qu'il y a des exigences?
Oui, donc pour participer, d'habitude, on fait une campagne de sensibilisation vers le mois de septembre. On visite des classes, des universités, des collèges. Il faut que ce soit dans la région d'Ottawa-Gatineau parce que durant toute l'année, il y aura une formation qui se fait sur place. Alors, c'est difficile pour des jeunes qui sont de l'extérieur de la région. Mais donc, on va à l'Université d'Ottawa, à l'UQO, au Collège La Cité, etc. Et puis, on fait une campagne de promotion du projet. Ça, c'est au mois de septembre. Vers la troisième, quatrième semaine de septembre, on fait une soirée d'information à nos bureaux, tout près de l'Université d'Ottawa. Et à partir de cette soirée d'information, donc là, on recueille les noms des personnes qui sont intéressées. Et puis, dès la semaine suivante, on commence des cours d'espagnol qui sont donnés ici au Bureau de solidarité jeunesse. Ces cours-là sont obligatoires à raison d'une heure et demie par semaine de cours d'espagnol en octobre, en novembre. Et puis ensuite, ça reprend en janvier, février et mars, donc 5 mois de cours d'espagnol. Il y a aussi des samedis de formation qui sont obligatoires. Il y en a 4 ou 5 avant le départ. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont obligatoires pour participer au projet, donc d'être actif et présent durant ces journées et les cours d'espagnol. Un autre aspect, c'est évidemment la levée de fonds. Il y a des personnes qui ont de la chance et dont les familles sont un peu plus à l'aise, qui leur disent « bon ben, c'est super ton projet, on va le financer » et qui n'ont pas besoin d'aide financière. Mais s'il y a des jeunes, dans la plupart des cas, les jeunes ont besoin d'aide financière pour participer à ce projet. Donc, on organise des levées de fonds qui sont surtout les fins de semaine. Donc, dans la mesure des disponibilités de chacun, les gens s'impliquent dans les levées de fonds. Et puis reçoivent le pourcentage correspondant au nombre d'heures qu'ils ont fait de ces levées de fonds pour arriver au montant requis. Cette année, c'était 2600. Post-pandémie, c'est un peu difficile de voir parce que les coûts ont beaucoup augmenté aussi des constructions en République dominicaine, du voyage. Alors, on va faire nos calculs là, suite au projet qu'on vient de faire et puis on verra si on doit ajuster. C'est autour de ces montants-là.
Parlez-nous un peu du prochain voyage humanitaire à l'agenda.
Donc, le prochain voyage, ce sera un projet en juillet. Donc, la cohorte qui s'est préparée en 2022-2023, il y a un groupe qui est parti avec moi qui vient de revenir, mais il y a un autre groupe qui part maintenant le 1er juillet. Eux vont dans la région frontalière avec Haïti et travaillent avec les familles migrantes d'Haïti vers la République dominicaine. C'est surtout avec les enfants, ça prend la forme d'un camp d'été pour les enfants de ces familles qui sont souvent sans papier et donc qui ont très peu accès à l'école, etc., à l'éducation, et même qui parfois ont un avenir bloqué parce qu'ils sont nés en République dominicaine de parents haïtiens sans papier, donc ils n'ont pas de papier dominicain ni de papier haïtien, alors ça les empêche d'avoir des droits de travailler, des droits d'aller à l'école. Donc ce sont vraiment les plus pauvres de la République dominicaine. Donc, ce groupe-là part 3 semaines, ils seront là du 1er juillet au 23 juillet. Ensuite, ça ira à l'an prochain, donc en 2024. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées à participer, des jeunes adultes entre 18 et 30 ans à peu près, qui seraient intéressés à participer à ces projets en 2024, ils devraient venir nous voir là, vers la mi-septembre pour s'inscrire à la soirée d'information.
Maintenant, est-ce que vous croyez que participer à un programme humanitaire comme celui-ci est une expérience de vie que les gens devraient tous faire au moins une fois dans leur vie?
Bon, est-ce que c'est obligatoire de faire ça une fois dans sa vie? Ça dépend des personnes, hein? Il y a des gens pour qui ce genre de projet, c'est plus difficiles, qui ont des difficultés d'adaptation. Ça demande beaucoup de flexibilité, d'être capable de vivre en groupe 24 sur 24. Donc, il y a des personnes qui ont simplement pas la capacité de vivre une telle expérience. Mais pour les gens qui veulent vraiment comprendre la réalité des pays du Sud, le genre de vie que les gens en République dominicaine ou dans d'autres pays d'Amérique latine peuvent vivre, les difficultés financières, humaines, les possibilités d'avenir pour ces personnes-là, comprendre les rouages internationaux, c'est sûr que c'est un atout indéniable. À mon avis, ça vaut plus qu'une année d'université en développement international ou en sciences politiques parce que ça permet vraiment de ressentir, de voir les conséquences de différentes politiques, de voir les différences entre un pays développé du Nord et les pays en développement du Sud, de les constater de nos yeux, puis de vraiment le ressentir et puis de percevoir des pistes d'avenir, des différents projets possibles pour arriver à réduire l'écart entre les pays plus riches et les pays plus pauvres. Ça nous donne d'excellentes intuitions. En tout cas, pour des personnes qui veulent être impliquées dans la communauté, qui veulent être des citoyens engagés, c'est sûr que c'est une expérience exceptionnelle.
Bien, merci, Sœur Marie-Pierre, d'avoir pris le temps de nous parler.
Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir pensé à moi.
Ici Rose Gressla pour La Priorité locale. Je parlais avec Sœur Marie-Pierre à propos du programme humanitaire Solidarité Jeunesse.